Radio Kapi. Oh, Kapi. Blaise Ndani Kambala pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voici d'abord les titres de ce journal. Plus de 15 millions de Congolais vulnérables sont au cœur de la campagne permanente de solidarité nationale lancée par le gouvernement. L'initiative a été annoncée hier par la ministre d'État Eve Bazaïba lors du briefing de presse. En Ituri, la prise en charge des malades d'Ebola est affectée par une grève du personnel de santé réclamant les paiements de ses primes et salaires. Les grévistes exhortent le gouvernement à honorer ses engagements pour assurer la poursuite de la riposte. Notre invitée est Isabelle Pendeza, présidente du CAFED à Goma. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, son organisation et la section genre de la MONUSCO ont sensibilisé plus de 65 jeunes à la résilience, à la gestion du temps et aux opportunités offertes par le numérique dans un contexte de justice climatique. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition matinale. Plus de 15 millions de Congolais vivent aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité. Un constat dressé par la ministre d'État aux Affaires sociales et Actions humanitaires Eve Bazaïba Massoudi lors du briefing de presse co-animé ce jeudi à Kinshasa avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe. Selon elle, les conflits, les troubles sécuritaires et les catastrophes naturelles sont les principales causes de cette situation. Pour apporter une réponse à ces défis, le gouvernement lance une campagne permanente de solidarité nationale. Écoutons Eve Bazaïba au micro de Radio Kapi.
Cette campagne, nous allons la lancer le 25 août, mais elle aura désormais un caractère permanent. Un caractère permanent et nous allons la commencer dans un premier temps ici à Kinshasa. Évidemment, les messages passent de toute l'étendue de la République. Les fonds récoltés, les dons récoltés vont servir à des catégories vulnérables de la population qui constituent aujourd'hui l'objet de la crise humanitaire qui n'a plus son nom en République démocratique du Congo. Nous avons environ plus de 15 millions de Congolais qui sont dans une situation de vulnérabilité totale. Parmi ces Congolais, 60% c'est la conséquence de ce que nous appelons les chocs liés au conflit. Parce qu'il suffit qu'un seul coup de feu soit tiré quelque part, il y a des mouvements de population qui s'engagent. Et lorsqu'on quitte un point X à un point Y, on tombe déjà dans une certaine vulnérabilité parce que vous n'êtes plus dans votre milieu naturel. Les conditions deviennent très précaires.
Cette campagne est placée sous le thème « Redonner le sourire et réconforter l'espoir ». Une nouvelle chance pour des milliers d'enfants exclus du système éducatif. L'UNESCO a lancé jeudi à Kinshasa le projet d'intégration des enfants non scolarisés dans l'enseignement formel par l'apprentissage accéléré avec l'appui financier du Japon. L'initiative cible 4200 enfants âgés de 9 à 16 ans, principalement issus des milieux défavorisés ou touchés par les crises. Elle sera déployée dans 3 provinces, Kinshasa, La Tchopo et le Tanganyika. Partenaires techniques, diplomates ainsi que plusieurs institutions nationales et internationales ont pris part à la cérémonie du lancement. Reportage Sephora Mpaka-Chipuna et Daniela Awa-Izuba.
Redonner une seconde chance aux enfants déscolarisés ou n'ayant jamais fréquenté l'école est désormais une priorité. Grâce au programme d'apprentissage accéléré, ces jeunes pourront rattraper leur retard et intégrer directement l'enseignement formel. Selon l'UNESCO, c'est un aboutissement important en matière d'inclusion éducative.
Cette initiative peut devenir une expérience importante en matière d'inclusion éducative en RDC, à condition que nous sachions collectivement en tirer les enseignements et inscrire ses acquis dans la durée.
Une réponse stratégique soutenue par le gouvernement japonais.
En investissant aujourd'hui dans l'éducation de ces enfants, nous contribuons ainsi à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité de la RDC.
La concrétisation de cette initiative repose sur une synergie étroite avec les autorités locales. F. Bazaïba, ministre des Affaires sociales et humanitaires, s'exprime.
Aucun enfant ne doit être condamné à rester en marge de l'école. Je compte donc sur la solidarité interinstitutionnelle.
Ces projets offrent à toute une génération l'opportunité de retrouver le chemin de l'école et de réécrire son histoire pour un avenir prometteur.
Autre actualité ce matin, en Ituri, la prise en charge des malades d'Ebola est perturbée dans plusieurs centres de traitement à la suite d'une grève du personnel de santé. Les médecins et autres prestataires dénoncent le non-paiement de leurs primes et de leurs arriérés de salaire. À Kasseni, sur les rives du lac Albert, ainsi qu'à Nizi, plusieurs agents ont suspendu leurs activités pour réclamer le respect des engagements pris par le gouvernement. Ils estiment que cette situation risque de compromettre la continuité de la riposte contre l'épidémie. Le point avec Isaac Remoyope.
Malgré les efforts déployés par les équipes de riposte pour rapprocher les soins des populations, notamment à travers l'ouverture des nouveaux centres de traitement d'Ebola, plusieurs difficultés continuent de freiner la lutte contre l'épidémie. À Kasseni, à une cinquantaine de kilomètres de Bounia sur les rives du lac Albert, les centres de traitement d'Ebola, inaugurés il y a quelques jours avec l'appui du gouvernement ougandais, fonctionnent au ralenti. Les prestataires de santé congolais réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de primes et ne prestent pas. Wilson Ndourou, notable de Kasseni, interpelle les autorités.
Ça fait 48 heures, les personnels affectés par le gouvernement congolais ne se présentent pas à la CTE de Kasseni. C'est une déception énorme.
La même situation est observée à Nizi dans les territoires de Djougou, à une trentaine de kilomètres de Bounia où plusieurs cas d'Ebola ont été enregistrés. Depuis jeudi matin, une partie du personnel du centre de traitement d'Ebola a suspendu ses activités pour exiger elle aussi le paiement de ses arriérés. Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Donné Lossa, appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités.
La riposte telle qu'elle est organisée ne rassure pas toujours. Par exemple, aujourd'hui, il y a une grève à Nizi. Moi, je suis en train de rejeter la responsabilité à l'État.
La coordination provinciale de la riposte contre Ebola n'a pas encore réagi à ces revendications. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Autre préoccupation en Ituri dans le cadre de la lutte contre Ebola. Les dispositifs de prévention restent insuffisants sur plusieurs axes routiers stratégiques, notamment le long des routes nationales numéro 4 et 27 entre Mahagi, Komanda et Kisangani. Les points de lavage des mains et de contrôle de température y sont rares, parfois inexistants ou fonctionnent de manière peu rigoureuse. Une situation qui inquiète les acteurs locaux dans une province caractérisée par d'importants mouvements de population. Ils appellent les équipes de riposte à renforcer les mesures préventives afin de réduire les risques de propagation de l'épidémie. Encore une fois, Isaac Remoyope pour les détails.
Des Mahagi à Komanda Nituri, puis des Komanda Kisangani dans la province de la Tchopo, des centaines de véhicules, camions, voitures et bus de transport à commun circulent chaque jour sur les routes nationales 4 et 27. Une forte affluence qui accroît les risques de transmission de la maladie à virus Ebola dans un contexte où les mesures de prévention restent limitées. Selon plusieurs usagers de la route, sur l'axe Bounia Kisangani, long d'environ 800 km, on ne compte que quelques points obligatoires de lavage des mains et de contrôle de température. Le constat est similaire sur la route nationale 27 reliant Bounia Mahagi. Dans la plupart des localités traversées, il n'existe ni dispositif de lavage de mains ni appareil de prise de température. Des transporteurs affirment que certains voyageurs embarquent dans des zones fortement touchées par l'épidémie. Des passagers présentant des symptômes compatibles avec Ebola sont parfois transportés et que certains malades seraient même décédés en cours de route. Face à cette situation, aggravée par les déplacements permanents de la population, plusieurs organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme afin de limiter la propagation de l'épidémie. La coordination provinciale de la riposte contre Ebola n'a pas encore réagi à ces préoccupations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Nous clôturons ce chapitre consacré à la santé avec ces chiffres préoccupants. En République démocratique du Congo, environ une femme sur deux en âge de procréer souffre d'anémie. Ces données ont été révélées jeudi à Kinshasa par la directrice du programme national de nutrition, le Pronanit, à l'occasion d'un briefing de presse consacré à la supplémentation en micronutriments. Face à cette situation, l'association de nutritionnistes et diététiciens du Congo, l'ANIDICO, mène une campagne de sensibilisation auprès des journalistes sur l'importance des micronutriments multiples pour améliorer la santé maternelle. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le Micronutriments Multiples est un comprimé unique contenant 15 vitamines et minéraux essentiels. Parmi ces molécules, le fer et l'acide folique, riches en vitamine B9, préviennent l'anémie et des malformations du type néral, alors que la vitamine A soutient le système immunitaire et la vision, tandis que le calcium participe à la formation du squelette fœtal et prévient la préclampsie chez la mère. Pour sa part, la directrice du Programme National de Nutrition conseille aux femmes enceintes et allaitantes de prendre les nutriments multiples pour prévenir l'anémie. Docteur Béatrice Kalenga.
Micronutriments sont des substances chimiques indispensables dans le corps dont l'organisme en a besoin pour renforcer son système immunitaire, surtout chez les femmes enceintes, femmes allaitantes et puis chez les enfants.
Les nutritionnistes soutiennent également que les micronutriments est plus efficace que la simple combinaison fer plus acide folique pour réduire les risques de faible poids à la naissance, des prématurés et de mortalité. Avec l'appui logistique et financier de la Fondation Gaïto, cette campagne que mène l'Association des nutritionnistes et diététiciens congolais vise à ce que les micronutriments multiples soient inscrits sur la liste des médicaments essentiels de la RDC.
Direction Matadi dans la province du Congo central où les préparatifs du recensement général de la population et de l'habitat s'intensifient. Depuis le début de la semaine, le maire de la ville, les bourgmestres ainsi que les chefs de quartier et d'avenue participent à des séances de sensibilisation. L'objectif est de préparer les acteurs locaux à cette importante opération nationale et de mieux informer la population. Il faut rappeler que le dernier recensement en RDC remonte à 1984. Pour de nombreux habitants, ce sera donc la toute première expérience suscitant de nombreuses interrogations. Les détails avec Élise Kavira.
En première ligne auprès de la population, les chefs de quartier considèrent le recensement comme une opération importante pour mieux connaître les réalités de leur communauté. Dibouane Tsakala, président des chefs de quartier de Matadi, en souligne l'importance.
C'est nous les chefs de quartier qui faisons les rapports à l'état civil. Avant, les chiffres étaient souvent estimés, mais maintenant nous allons faire un recensement.
Si le recensement est bien accueilli par les autorités locales, plusieurs habitants souhaitent encore mieux comprendre son objectif.
Recensement, j'en ai entendu parler, mais bon, après, on se pose des questions. Pourquoi maintenant? Le gouvernement provincial doit communiquer, nous expliquer les choses clairement.
À ce sujet, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, appelle les habitants à ne pas céder aux fausses informations et rappelle que le principal objectif de cette opération est de mieux prendre en compte les besoins de la population.
Les mauvaises langues viennent toujours pour tromper la population en leur disant que si on organise les recensements, ce sont des manœuvres dilatoires pour retarder les élections. Non, là n'est pas la question. Les gens ne doivent pas lier les recensements aux questions des élections.
Cette sensibilisation se poursuivra en porte en porte dans les avenues de Matadi. Les autorités appellent l'ensemble de la population à y participer activement. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi veut réduire la dépendance de la province aux importations des produits alimentaires. Pour atteindre cet objectif, il mise notamment sur la relance des unités de transformation installées à Bouéguéra et Kiliba dans les territoires d'Ouvira. En visite dans cette zone, l'autorité provinciale a réaffirmé sa volonté de stimuler la production agricole et industrielle, de créer des emplois et de contribuer au développement local. Jean-Jacques Pourouzi était accompagné de plusieurs investisseurs étrangers. Les détails dans ce reportage de Ronéline Tibonera Idiamine.
Des entrepôts, des tracteurs et diverses machines sont encore visibles sur les sites de Bouéguéra, malgré son occupation temporaire par la rébellion du M23 en début d'année. Pour le gouverneur du Sud Kivu, cet endroit est hautement symbolique car il fait partie des zones capables de permettre au sol, je cite, de prendre sa revanche sur les sous-sols grâce à l'agriculture.
Nous avons amené ces investisseurs, tous ces acteurs pour que cette machine reparte, que nos frères et sœurs puissent trouver du travail, que ceux qui cultivent des cannes à sucre puissent en cultiver beaucoup.
Doté d'une capacité de transformation de plus de 100 tonnes de maïs et de manioc par jour, la relance des activités de l'usine de transformation de Bouéguéra figure parmi les urgences. C'est l'avis du conseil spécial des chefs de l'État en charge de l'agriculture, le docteur Sanguingante Ragna, qui s'est rendu dans la zone.
Comme vous le savez, chez nous à Bukavu par exemple, tous les maïs moulis viennent de l'Ouganda ou bien disons du Rwanda. Nous devons remplacer cela. Et nous avons cette possibilité ici d'avoir cette usine. Si elle fonctionne, elle produit 100 tonnes de maïs ou de manioc par jour.
L'usine de transformation de Bouéguéra est une unité industrielle de production de farine, de maïs et manioc, relancée en novembre 2025 par le gouvernement national. Elle vise l'autosuffisance alimentaire et la valorisation de l'exploitation agricole locale sur un site d'environ 22 000 hectares.
Actualité internationale.
Moyen-Orient, au Liban, au 30 juillet 2026, 821, 77 personnes déplacées par le conflit ont commencé à regagner leur région d'origine au Liban, selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Des retours qui s'effectuent malgré d'importants dégâts matériels, comme des destructions des villages dans le sud et des infrastructures d'eau et d'électricité très touchées. Mais plus de 200 000 autres Libanais sont toujours déplacés de force.
L'invité.
Place à présent à notre invité. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août, le collectif des associations féminines pour le développement, le CAFED, a réuni à Goma plus de 65 jeunes autour des questions de résilience, de gestion des temps et d'exploitation des opportunités offertes par le numérique. Organisée avec l'appui de la section genre de la MONUSCO, cette rencontre s'est tenue dans un contexte marqué par les défis liés à la justice climatique. Pour en parler, nous recevons Isabelle Pendeza, présidente du CAFED. Elle est au micro de Bernardin Nyangui.
Madame Isabelle Pendeza, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
À cette occasion de la Journée internationale de la jeunesse, quel est le message?
C'est de faire comprendre à la communauté tout entière que les jeunes constituent une force que nous devons capitaliser dans tout ce qui concerne la gouvernance, tout ce qui concerne la résolution de conflits communautaires, mais aussi de parler de leur participation dans la construction de la paix durable.
Est-ce que par rapport à notre contexte du Nord Kivu actuellement, il y a certaines particularités?
Certainement, par rapport au contexte du Nord Kivu, je pense que ce qui est important, c'est de savoir d'abord la place ou alors le rôle que ces jeunes jouent. Les jeunes souvent jouent le rôle d'auteurs, mais aussi des victimes dans les conflits. Et c'est là-bas que nous avons beaucoup plus insisté, d'abord sur la conscientisation, mais aussi vulgariser la résolution 2250 qui parle de la jeunesse paix et sécurité, qui est un instrument juridique international qui donne l'opportunité à la jeunesse de jouir de leurs droits, mais aussi de comprendre qu'ils doivent s'impliquer dans tout ce qui concerne le développement et la construction de la paix. Nous avons vulgarisé cette résolution qui était peut-être ignorée par certains jeunes, où on a à réunir plus de 65 jeunes, filles et garçons. Et autour de cela, on a aussi parlé de l'historique de cette Journée internationale de la jeunesse, qui beaucoup de jeunes ignoraient aussi. Nous avons aussi insisté sur les rôles que ces jeunes jouent dans la communauté, mais aussi insister sur la gestion du temps, la gestion des stress, mais aussi la gestion des réseaux sociaux, parce que quand vous voyez beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et on se dit, après avoir parcouru toute une journée les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils gagnent en termes de revenus ou en termes d'éducation? Nous avons aussi démontré que les jeunes ne sont pas seulement là pour les défis, mais aussi pour des solutions que les jeunes doivent proposer des pistes des solutions et aussi travailler avec les pères qui sont les adultes et alors les personnes qui ont commencé avant eux et profiter du mentorat et du coaching parce que beaucoup de jeunes se disent mais pourquoi on donne toujours des responsabilités aux personnes âgées pendant qu'on oublie les jeunes. Mais moi je pense que les jeunes doivent aussi comprendre qu'ils doivent s'informer, s'former et chercher aussi les opportunités. C'est sûr que le contexte peut-être n'est pas habituel, mais nous devons comprendre que c'est dans les défis qu'on se forge et aussi qu'on se distingue. Donc, un message pour les jeunes, c'est de ne pas baisser les bras parce que le plus grand ennemi de la paix, c'est le désespoir.
La jeunesse à l'heure du numérique, et quels sont les conseils par rapport à ça, mais aussi de comment ils peuvent aussi gérer les informations en gérant leur temps et en profiter au maximum?
Alors, dans nos échanges par rapport à la gestion des réseaux sociaux, nous avons montré d'abord premièrement que les réseaux sociaux, c'est une opportunité pour la jeunesse. Parce que si on veut avoir des informations vérifiables et claires, on les retrouve deux fois aussi sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Et donc, les téléphones ou alors les outils numériques constituent une grande opportunité pour les jeunes. Il y a des sites sur lesquels on présente des opportunités d'emploi, mais si quelqu'un ne connaît pas comment accéder à ces sites, fuite, il ne pourra pas s'en sortir. Et dès ces moments-là, nous avons pu échanger sur les opportunités d'emploi au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes. Et le numérique et la crise économique, malheureusement, nous avons aussi parlé sur la santé mentale, bien sûr, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas ce qu'on cherche réellement, on aura aussi des difficultés pour arriver à atteindre son objectif. Alors, nous avons parlé aussi du climat et des innovations, où les jeunes sont en première ligne partout d'ailleurs au monde pour des solutions climat. Mais est-ce que beaucoup de jeunes ont aussi accès à des opportunités de projets sur l'agriculture durable ou alors sur les énergies propres? Et ce sont des défis pour lesquels on a parlé, mais aussi la question de la technologie en Afrique qui est encore un défi. Nous avons aussi essayé de parcourir en montrant que la célébration de cette journée, ce n'est pas seulement célébrer la force de la jeunesse, mais aussi la créativité et la résilience de la jeunesse africaine et surtout la jeunesse de la province du Nord-Kivu. Et donc, nous avons pensé que c'était une occasion de célébrer leur force, leur créativité, parce que investir dans les jeunes, c'est investir dans la paix et à l'avenir de la RDC.
Madame Isabelle Pendeza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'était donc notre invitée Isabelle Pendeza qui s'entretenait avec Bernadette Nyangi. Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin préparé pour vous par Lievin Mbwinga Vubu et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.